La promenade sociologique de ce matin était très bien, un peu plus longue que prévu. Donc une partie du groupe finit le repas et va se rapatrier très très vite, y compris celui qui doit animer la session. Donc est-ce que la connexion c'est bon ou t'as pas demandé? Je crois que c'est ce que tu étais parti faire. Sinon, il y avait un teaser du festival qui était un petit peu déjanté, etc., que tout le monde n'a peut-être pas vu, donc on se proposait de le projeter maintenant pour vous faire patienter. Ou sinon, si ce n'est pas possible, on va commencer la session puisque nos deux intervenants sont là. Donc Gérard Mauger, directeur de recherche émérite ou au CNRS, spécialiste de la question de la jeunesse, des classes populaires, de la déviance, et qui connaît très bien la sociologie de Bourdieu et qui donc a aussi un certain nombre de contributions réflexives sur les usages de la sociologie de Pierre Bourdieu aujourd'hui, et qui collabore aussi aux éditions du Croquant pour la revue Savoir Agir notamment, mais aussi pour la collection Champ Social. Et Samuel Bourron, qui était parti voir si on pouvait avoir une connexion, lui, il a déjà été présenté hier. Il est en train de rédiger sa thèse. Donc, il est doctorant à l'Université de Picardie, au CURAP. Sa thèse porte sur des sujets en partie éloignés des sujets qu'on traite pendant ce festival, sa thèse porte sur les écoles de journalistes. En mobilisant à la fois la sociologie des médias et la sociologie de l'éducation pour comprendre comment sont formés les journalistes, les catégories de pensée qui s'imposent à eux au cours de leur formation, les prédispositions qu'ils ont et les dispositions professionnelles qu'ils développent dans les écoles de journalistes. Bien sûr, ça a à voir avec la formation, mais avec le pouvoir, hein, puisque les médias sont une partie importante du champ politique de fait aujourd'hui. Et comme vous le savez, pour ceux qui étaient là hier, il a développé, comme si ça ne suffisait pas, à côté de sa thèse, une enquête sur les identitaires. Et donc, s'intéressant à la fois à l'extrême droite et aux médias, il va nous présenter quelque chose autour de la construction médiatique de l'extrême droite, enfin des principes qui entourent aujourd'hui l'évolution du discours politique et comment certains intellectuels médiatiques sont porteurs de principes, de catégorisation nouvelles qui contribuent à produire les phénomènes politiques qui nous occupent aujourd'hui. Voilà, donc j'ai un peu meublé déjà. J'en profite pour redire, on l'a déjà dit hier soir, mais on y insiste un peu. Je le redirai tout à l'heure, du coup, si c'est prêt. Donc, petit teaser, et puis après, on démarre sur la session.
Je crois qu'on n'a pas le son.
Non? Ah, il est que là, le son. Le son, est-ce qu'on peut avoir du son? Il est.
À l'origine de la manifestation.
Donc je continue de meubler. Comme on l'a dit hier, on veut profiter de cette édition qui marche bien, où il y a du monde, etc. Et parce que c'est notre 9e édition, pour modifier le fonctionnement de notre association, revenir à son principe originel, qui est de mettre en discussion les savoirs des sciences sociales et les questions de citoyennes, d'engagement, de
réflexion. Comment vous définissez la droite, enfin, au-delà des catégories politiques ?
Je finis juste. Et donc on souhaite aussi que ça se traduise dans la démarche de construction du festival. Il est difficile aux uns et aux autres, quelqu'un me le disait ce matin, de participer aux prises de contact avec des sociologues, etc. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Développer des relations avec des associations, avec des syndicats, avec l'université Interage, on en parlait ce matin, avec des gens qui ont des compétences dans le domaine culturel, dans le domaine de la vie de quartier, ou que sais-je, peuvent faire des propositions et prendre en charge des contacts ou la préparation. Ce qu'on a fait ce matin, par exemple, ça a été préparé par un groupe d'étudiants. Eh bien, il peut y avoir d'autres formes de contribution au festival qui viennent enrichir et qui participent d'une autre manière de mettre les savoirs sociologiques en discussion. Donc, de ce point de vue-là, on va essayer de prendre en compte l'ensemble de ces bonnes volontés, de les intégrer à notre fonctionnement. Donc, il y aura une feuille tout à l'heure sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Donc, Pierrick n'est toujours pas là, donc le teaser, et puis après, on enchaîne.
Comment vous définissez la droite, enfin, au-delà des catégories politiques traditionnelles, oui. Comment vous définissez les gens de droite et les gens de gauche ?
C'est pas si difficile, quand même.
À l'origine de la manifestation, l'Institut Civitas, un mouvement chrétien intégriste qui demande notamment le retrait des subventions publiques aux théâtres qui proposent des œuvres jugées humiliantes pour les croyants.
Nous allons de plus en plus développer un lobbying catholique en France, encourager tous les décideurs d'opinion en tout domaine, politique, économique et culturel notamment, à s'inspirer de la position catholique.
Plus de renouvellement de la population, quoi, ça rime. On va voir un pays d'homo, et bien là, dans 10 ans, il n'y a plus personne. Non, c'est stupide, c'est stupide. Regardez dans l'histoire, la Grèce, ben, c'est une des raisons de sa décadence à l'époque. Décadence totale. C'est un danger énorme pour l'ensemble de la nation.
Et ça, tout cela finit par transformer les privilèges les plus insensés, qui sont les plus arbitraires, parce que vous soyez né à Neuilly ou à Aubervilliers, franchement, vous n'y êtes pour rien, en qualité naturelle. C'est-à-dire que les qualités qui sont des qualités sociales deviennent des qualités naturelles, des qualités innées.
Ils en rajoutent, n'est-ce pas, avec cette histoire de projet épouvantable de mariage homosexuel. Non pas que je me dresse contre qui que ce soit, mais je me dresse contre l'homosexualité. C'est nier la complémentarité des sexes qui est, attention, qui est génétique, qui est physique, qui est physiologie. Non seulement c'est nier l'ordre naturel, mon Dieu, c'est une évidence, sans être médecin, vous voyez ce que je veux dire. Même un enfant peut comprendre qu'une petite fille n'est pas un petit garçon, vous voyez.
Et d'ailleurs, ce qu'il y a dans ce livre, c'est simple, hein, c'est une compilation des 2000 ans d'histoire que nous avons vécu, puisqu'il s'agit simplement, mais non, c'est vrai, il s'agit simplement d'expliquer que c'était mieux avant, que quand l'homme dominait les femmes et que, enfin, c'était, les choses étaient claires, finalement, c'était vachement mieux. Et il en appelle à un retour, finalement, à cet ordre qui est un ordre moral, qui est un ordre des sexes, donc il faut que l'homme domine la femme.
Ah, bien. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers ?
La plupart n'en ont pas.
Des bonnes celle-là, pas de souliers. Ça, j'avoue.
Vous savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures.
Une dictature, comme vous y allez. Et bien sympathique, Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
C'est quand même enfin, c'est le rapport à l'ordre, quoi. En gros, c'est ça, c'est le rapport. C'est ceux qui sont pour l'ordre tel qu'il est, et puis les gens qui trouvent que c'est pas bien comme c'est, quoi. Voilà, en gros, c'est ça.
L'exercice d'aujourd'hui, le tag militant. rapidité, spontanéité, maîtrise du geste.
Jean, si tu veux. Jean, je crois qu'on ne se comprend pas très bien.
Baronne, je vous ai déjà dit que c'était pas lisible, gothique, Ulrich.
Donc on va tout de suite s'y remettre. Merci à tous d'être aussi nombreux cet après-midi pour la prochaine table ronde que nous avons prévue. Désolée pour le petit retard dû à une promenade sociologique faite ce matin, qui était vraiment un moment absolument délicieux avec les étudiantes de sociaux qu'on remercie encore énormément pour cette promenade sociologique dans les rues de Poitiers où on a essayé de découvrir les différents ordres de la ville. Donc cet après-midi, on aborde donc une nouvelle table ronde qu'on a intitulée « De nouveaux réactionnaires ». On est très content d'accueillir donc d'abord Gérard Mauger, qui est sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l'association Savoir Agir et qui a publié de nombreux ouvrages, bien sûr, mais le plus récent, Repères pour résister à l'idéologie dominante, en 2013. Et puis à côté, Samuel Bourron, doctorant en sociologie au CURAP, qui va... Alors, j'ai pas donné le titre de Gérard, pardon. Quelques aspects de la rhétorique réactionnaire. Et donc, Samuel Bourron, doctorant en sociologie à Amiens, qui va présenter une présentation sur le mythe d'une extrême droite anti-système, comment les médias fabriquent Alain Soral. Et il m'a demandé de préciser qu'il s'agissait en fait la communication qu'il va nous présenter va paraître donc dans un article dans la revue Agone du mois de mai, article intitulé « Les beaux quartiers de l'extrême droite ». Intitulé « Les beaux quartiers de l'extrême droite » et coordonné par Samuel et Maya Drouard, que vous avez vu déjà hier. Voilà, alors l'idée, c'est de permettre un échange le plus long possible avec vous. Donc on va leur donner la parole successivement pour une petite présentation qu'on a essayé de calibrer autour de 15 minutes, si c'est possible, pour qu'ensuite on se dégage le maximum de temps pour discuter ensemble.
Bon, je ne sais pas si je vais arriver à faire tenir ça en 15 minutes. Je risque d'avoir du mal, mais enfin bon, je vais essayer d'abréger. L'idée était d'essayer de présenter l'esprit, au fond, qui anime le livre dont ma voisine vient de vous parler, qui s'appelle « Repères pour résister à l'idéologie dominante », qui est en fait un espèce d'ensemble qui contient les articles que j'écris depuis longtemps dans une rubrique qui s'appelle « La rhétorique réactionnaire dans Savoir Agir ». Donc voilà, j'ai essayé pour aujourd'hui d'indiquer dans quel esprit, de quelle façon j'essaye de remplir cette rubrique vaille que vaille chaque trimestre. Voilà. Les thématiques racistes, sexistes, homophobes, on les voyait, on les entendait là, tout à l'heure, connaissent aujourd'hui un regain de vitalité, malheureusement certain, je crois, à travers à la fois la montée du Front National, dont on parle partout dans les gazettes, et puis aussi une espèce de revival de l'intégrisme religieux qui a trouvé à s'exprimer à l'occasion du mariage pour tous. C'est un fait extrêmement visible aujourd'hui, sur lequel il faudrait essayer de s'interroger. Je vais essayer de le faire d'une certaine façon, mais simplement d'une certaine façon. D'abord en disant que je ne pense pas, pour autant, qu'on puisse y voir une pensée de droite, alors avec des guillemets, une pensée de droite au sens où Emmanuel Terray, par exemple, a essayé de dégager une espèce d'invariant de la pensée de droite à travers l'espace et le temps. Je ne le pense pas pour deux raisons. D'une part, parce que je crois que si pensée il y a, cette pensée de droite est presque toujours plurielle. Elle est rarement, il y a rarement, je crois, une pensée de droite unifiée. Il y a, je crois, autant, comme principe, on pourrait adopter l'idée qu'il y a autant de pensées de droite que de fractions distinctes au sein des classes dominantes. Voilà, à supposer que, bon, voilà, que ces classes dominantes soient composées de fractions distinctes. Ce n'était pas ce que racontaient les amis Pinson hier soir, hein, qui présentaient ça comme un bloc extrêmement cohérent, unifié. Bon, c'est une question qui, ça peut se discuter. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Bon, au XIXe siècle, par exemple, au sein de, pour ce qui était de la pensée de droite réactionnaire, la nature est le sang de l'idéologie conservatrice aristocratique s'opposait au don, au mérite de la bourgeoisie républicaine, une autre forme d'idéologie conservatrice qui s'opposait voilà, à une autre. Il y avait une espèce de concurrence, en quelque sorte, entre deux modalités de la pensée de droite. Et de façon générale, je crois qu'on peut sans doute distinguer dans la pensée de droite une arrière-garde des classes dominantes qui est proprement réactionnaire, au sens où elle appelle un retour à un état antérieur. Hein, par exemple, l'appel aujourd'hui, par exemple, à en revenir à la famille patriarcale traditionnelle. On les voyait là tout à l'heure. C'est proprement réactionnaire, c'est retourner à un état antérieur idéalisé. Bon, donc une arrière-garde, mais aussi, dans la pensée de droite, une avant-garde de classe, et qui me semble aujourd'hui être caractérisée par son libéralisme, ou plutôt son néolibéralisme. Arrière-garde donc et avant-garde, entre lesquelles s'intercale presque toujours une espèce de position conservatrice médiane entre cette arrière-garde et cette avant-garde. L'avant-garde de la pensée de droite aujourd'hui a, je crois, l'EPS pour porte-parole. Alors peut-être je peux choquer en disant ça, mais tant pis, j'assume, je le fais délibérément. Je crois que l'avant-garde de la pensée conservatrice aujourd'hui, c'est l'EPS qui l'incarne, en tout cas dans le champ politique. Un PS dont il faut dire, je crois honnêtement, qu'il n'est ni raciste, ni sexiste, ni homophobe, mais, justement, néolibéral, ça c'est sûr. Un PS qui, à partir du tournant libéral de 1983, a substitué à ce qu'il appelait la rupture avec le capitalisme, on a peine à le croire aujourd'hui, mais ça c'était quand même ça, quoi. En 81, Mitterrand a été élu sur le thème de la rupture avec le capitalisme, et qui lui a substitué, depuis le tournant de 1983, ce qu'on pourrait appeler, de façon générique, la lutte contre les discriminations. Comme l'a montré Walter Ben-Mekael, la volonté d'en finir avec le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc., s'est révélée, en fait, tout à fait compatible avec le libéralisme économique. En d'autres termes, je ne crois pas qu'il y ait de contradiction intrinsèque entre la reproduction ou même l'aggravation des inégalités économiques et leur distribution sans distinction d'origine, de sexe ou d'orientation sexuelle. La deuxième raison que j'ai de penser qu'il n'y a pas, à proprement parler, une pensée de droite, c'est qu'il ne s'agit pas, je crois, d'une pensée de droite au sens d'un... Alors, sauf cas exceptionnel, Samuel le dira tout à l'heure, voilà, des cas particuliers comme Soral, des gens comme ça, mais de façon générale, il ne s'agit pas, je crois, d'une espèce d'idéologie constituée, cohérente, avec une espèce d'orthodoxie, justement, mais plutôt d'une rhétorique, c'est-à-dire quelque chose qui s'apparente à un art oratoire, dont Albert Hirschman, par exemple, s'est efforcé de mettre en évidence les procédés. Au fond, je crois qu'il s'agit davantage d'une doxa, qui se situe en deçà de la pensée, en deçà de l'idéologie. Alors, ceci dit, mieux, sans doute, que la propagande ouvertement réactionnaire, les catégories de pensée de ce que j'appelle la doxa néolibérale s'infiltrent dans les esprits à travers une, on va appeler une novlangue qui, si on ne s'y attarde pas, a toutes les chances de passer justement inaperçue et qui est d'autant plus pernicieuse qu'elle, qu'elle passe inaperçue en se diffusant sans que personne ne le remarque. Située en deçà de l'idéologie, en deçà de la croyance, la doxa néolibérale s'impose, pour ainsi dire, clandestinement. On pourrait dire d'une certaine façon qu'elle pratique l'anesthésie plutôt que la provocation. Cette doxa est faite, en fait, plutôt qu'une pensée cohérente, construite d'un espèce d'assemblage de concepts vagues, ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler une novlangue néolibérale, qui n'est pas une langue savante, même si, bien sûr, on pourrait aussi montrer qu'elle doit beaucoup à ce que Keith Dixon appelait les évangélistes du marché, qu'elle doit beaucoup à des think tanks comme la Société du Mont-Pèlerin, il y a longtemps, ou bien la Fondation Saint-Simon, plus récemment, qui ont travaillé, en quelque sorte, à élaborer, à produire, en quelque sorte, cette pensée doxique. Une espèce d'avant-garde, en quelque sorte, de la pensée néolibérale, qui est relayée aujourd'hui par les écoles du pouvoir, comme HEC, Sciences Po, l'ENA, etc., et les stars du système médiatique, les éditocrates, comme on dit à l'Acrimed. Bref, alors, une pensée donc, qu'on peut rattacher à des initiateurs, à un groupe social, une espèce d'oligarchie médiatico-financière, hein, mais qui aussi a une diffusion, dont la diffusion est assurée par le concours de très très nombreux agents qui, à un titre ou à un autre, matériel ou symbolique, ont intérêt, pourrait-on dire, à cet ordre néolibéral. Encore un mot de portée générale, cette novlangue néolibérale a un caractère performatif. Alors, performatif, c'est-à-dire, en politique, dire, c'est faire. Quoi. Voilà, quand on dit les choses, on contribue à les faire. C'est-à-dire, plus cette novlangue néolibérale est parlée, reprise à son compte par les uns et par les autres, souvent sans s'en rendre compte, plus ce qu'elle énonce advient, sans même avoir besoin de le dire explicitement. Alors, bon, tout ça est un peu abstrait, j'ai essayé d'être un peu plus concret en essayant d'indiquer de quoi est faite cette novlangue. Elle passe, je crois, par, d'une part, la mise en déshérence d'un champ lexical et la substitution d'un lexique à un autre, et par des opérations de brouillage sémantique, en particulier dans le lexique politique. Alors, j'ai d'abord parlé de cette mise en déshérence d'un champ lexical. Alors, c'est ce qui se voit le moins. Hein. Quand on supprime quelque chose, bon, on ne voit pas que c'est disparu. Quoi. Voilà. Quand des mots disparaissent du vocabulaire, ça ne saute pas forcément aux yeux. Quoi. Et aussi, de la même façon, quand on substitue un langage à un autre. Mais je crois que tout ça est loin d'être indifférent. Les langues vivantes évoluent, ça va de soi. Le vocabulaire change, certains mots vieillissent. Peut-être même on pourrait deviner l'âge de celui qui parle en faisant attention aux mots qu'il utilise et aux mots qu'il n'utilise pas. Bref, les mots sont datés, en quelque sorte. Nous parlons avec des mots, mais les mots parlent d'une certaine façon de nous, hein, en repérant ce qu'on utilise et ce qu'on n'utilise pas. Parce que les mots sont datés, maintenir l'usage de mots qui sont tombés en désuétude ou récuser quelques néologismes expose à passer pour un attardé. Moi, ça m'arrive très souvent de passer pour un attardé, bon, parce que voilà, je tiens à maintenir l'usage de certains mots et de refuser résolument d'en employer d'autres. En fait, je ne pense pas que le refus d'entériner la mise en déshérence du vocabulaire de la lutte des classes, apparenté au marxisme en particulier, soit un effet du vieillissement social. Il s'agit plutôt, je crois, de récuser ce que Victor Klemperer appelait la langue des vainqueurs. Voilà, c'est refuser d'utiliser votre langage. Alors, d'abord, la mise en déshérence du vocabulaire de la lutte des classes. Voilà, un type de vocabulaire qui est sorti complètement du lexique politique, médiatique et sociologique, d'ailleurs, bien souvent aussi. Par exemple, le mot bourgeoisie ou le syntagme classe dominante ont été radiés purement et simplement du lexique médiatique, politique et même sociologique et remplacés par les élites. Voilà, on dit aujourd'hui les élites. En les rapprochant, quand on dit les élites, vous voyez, c'est comme le football brésilien, quoi, les élites du foot brésilien mondial. Bon, voilà, il y a les élites donc, qui nous dirigent aujourd'hui. Définissant les dominants par leur excellence sociale, et d'abord scolaire, le mot élite lui-même contient leur légitimation par la croyance aux dons, aux talents, aux capacités innées ou aux mérites qui seraient censés être inhérents à ces gens qui dominent. Quoi. Bon, voilà, c'est les élites, quoi, c'est pas n'importe qui. Voilà. On peut remarquer par exemple que la notion synonyme de l'oligarque est réservée aux classes dominantes de la Russie post-soviétique. En France, il n'y a pas d'oligarque. Hein, mais il y en a juste à côté. Quoi. Voilà. Symétriquement, le prolétariat, la classe ouvrière ont été congédiés ou voient leur usage limité à à des usines très très lointaines, quoi, au Bangladesh, quoi, des ouvrières du textile dont les immeubles s'effondrent. Quoi. Bon, voilà, là, il y a encore des ouvriers, mais chez nous, il n'y en a plus. Ils sont disparus. Quoi. Au mieux, quand on en parle, on utilise des euphémismes comme les milieux modestes, ou bien, le plus souvent, on dilue, en quelque sorte, ces ouvriers, on peut supposer qu'il en existe encore, dans une classe moyenne, hein, qui tend petit à petit à couvrir l'ensemble du monde social, hors élite d'un côté et des exclus de l'autre. Troisième mot disparu, c'est la lutte des classes, bien sûr. Elle a été remisée, en quelque sorte, dans le placard aux archaïsmes. Voilà. Bon, donc, si vous étiez parlé de ça, bon, vous passez immédiatement pour un pauvre sociologue archaïque ou un paléo-stalinien, enfin, bon, des choses comme ça, quoi. Bon. Voilà. Et remplacé, à l'exception, quand même, par exemple, de grévistes qui prennent en otage les usagers du RER. Là, bon, il y a des airs de lutte de classe. Bon, quand ça vient de l'autre côté, quoi, des prises d'otages. Quoi. Bon, voilà. Bon, donc la lutte des classes a été remisée donc, et a été remplacée par le dialogue social, comme on dit, l'écoute, la proximité, la communication, l'explication, la pédagogie. Voilà, Madame Fioraso, par exemple, il n'y a pas longtemps, expliquait qu'il faut enseigner la culture de l'entrepreneuriat dès la maternelle. Voilà, c'est une citation. Hein. Voilà. Dialogue qui est d'ailleurs, parce qu'on est entre gens polis, assorti, je cite, de lutte contre toutes les formes de discrimination. Ça, ils ne sont pas contre. La Cour de justice des communautés européennes, où l'article 1.2 du projet de TCE qui avait été rejeté par référendum en France, proclamait le traitement égal des personnes indépendamment de leur sexe, de leur âge, de leur religion, de leur origine ethnique, etc. Voilà. Exploitation et oppression, ayant été évacué avec la lutte des classes, s'y substitue l'exclusion. Alors, l'exclusion, bon, c'est une notion aussi qui est venue remplacer quoi, complètement hein, toutes les autres d'autrefois. Là où les capitalistes étaient fauteurs d'exploitation, d'oppression, de paupérisation, dans le meilleur des mondes méritocratiques, où chacun est responsable de ses succès et de ses faillites, les exclus ne sont finalement responsables que d'eux-mêmes. Quoi. Bon, ils sont responsables d'eux-mêmes, c'est leur faute s'ils en sont là. Quoi. Bon. Voilà. Quant à l'action humanitaire, les politiques d'insertion à destination des 10 exclus, les 100, comme on dit aujourd'hui, elles trouvent ses limites dans les effets pervers de l'assistanat. Il faut se méfier quand même. Hein. Sans ça, on risque de les emmener là où on ne voudrait pas qu'ils aillent. Quoi. Bon. Voilà. C'est le coup de l'effet pervers. Ça fait partie des rhétoriques de réactionnaires mises en évidence par Hirschman, dont je parlais tout à l'heure. Mais cette déshérence, donc, voilà, première chose, c'est donc un vocabulaire qui est disparu, quoi, littéralement. Cette déshérence du vocabulaire de la lutte des classes exerce un effet exactement inverse de celui que produisait l'effet de théorie dans le travail politique de construction de la classe ouvrière en particulier. En fait, bon, ça me semble important parce que je crois que l'existence de classes mobilisées dépend, au moins pour partie, de la représentation que les gens se font de l'espace social et de la place qu'ils y occupent, et en particulier de la croyance dans l'existence de classes. Si vous n'y croyez plus, ben, il n'y en a plus. Quoi. Voilà, c'est comme ça que ça disparaît. En tout cas, vous contribuez à leur disparition. Deuxième aspect, c'est la substitution du lexique gestionnaire au lexique ouvrier. Alors, c'est un peu le même thème, mais en prenant moins des concepts centraux de ce qu'était autrefois le vocabulaire marxiste, mais du vocabulaire ordinaire. De la même façon, je crois, le lexique ouvrier a été démonétisé et remplacé par celui de la rhétorique managériale. Alors, la même chose, mais c'est pareil, c'est passe des choses, pour indiquer ces choses qui passent insensiblement, en quelque sorte. Le patron, par exemple, il n'y a plus de patron, le patron il est devenu entrepreneur ou chef d'entreprise. En même temps, d'ailleurs, que le baron Seyère avait transformé le CNPF, Conseil national du patronat français, en MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Donc voilà, exit, il n'y a plus de patronat. Les ouvriers, qui n'apparaissent plus guère qu'en tant qu'immigrés, quand on en parle, sont devenus des opérateurs. Et les contremaîtres sont devenus des moniteurs. Voilà, vous voyez, on a changé de vocabulaire. Les licenciements collectifs sont devenus des plans sociaux. En même temps que la grève, d'ailleurs, devenait un mouvement social. Et le chômeur est devenu un demandeur d'emploi. Enfin, oui, bon, voilà. Le chef du personnel est devenu un DRH. Les usines, les chantiers, les bureaux sont devenus des entreprises. Des entreprises qui sont sujets d'un énoncé central, aujourd'hui, de la doxa néolibérale. Ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Voilà, on me rappelle ça tous les jours, quoi, depuis des mois maintenant. Voilà. Enfin, l'affrontement entre patronat et syndicats, les conflits sociaux, ont cédé la place au dialogue social, je le disais tout à l'heure, entre des partenaires sociaux, qui travaillent ensemble au maintien de la paix sociale. Voilà. Alors, cette substitution au lexique PCCGT, si on veut, ou au vocabulaire indigène de la lutte syndicale au jour le jour, du lexique modernisé de la collaboration de classe, sur fond d'un horizon indépassable du capitalisme néolibéral, n'est évidemment pas seulement, je crois, un grand mouvement d'euphémisation. Ça va bien plus loin que ça, quoi. C'est-à-dire qu'on euphémise, bien sûr, d'une certaine façon, ce dont il s'agit, mais en faisant ça, on démonétise aussi ce qu'on peut appeler les mots de la tribu, ce que vous voyez, le vocabulaire qui constituait en quelque sorte le groupe comme tel, et qui, comment dire, cette substitution ne provoque pas seulement, je crois, un désarroi discursif. C'est, je crois, que cette appropriation populaire et d'abord syndicale de cette nouvelle langue gestionnaire induit surtout la perte d'une vision du monde et de soi-même qui était liée directement à ce lexique, à ce vocabulaire. Elle efface, en quelque sorte, de l'horizon du disciple, un conflit pour l'émancipation et la justice qui est supposé sans avenir, parce qu'il est disparu d'abord du vocabulaire, disparu de la langue, donc il n'est même plus question d'en parler. Voilà. Deuxième aspect de cette technique de la rhétorique réactionnaire contemporaine, c'est ce qu'on peut appeler, je vais en donner quelques exemples rapidement, le brouillage sémantique dans le champ politique. Alors, je vais donner quelques exemples de dérives sémantiques du vocabulaire politique avant d'en venir directement au problème des étiquettes politiques. À propos de ces dérives sémantiques, j'en indiquerai trois exemples. L'usage du mot réforme, crise et sociale dans la doxa néolibérale. Alors, réforme. Réforme, c'est aujourd'hui, enfin depuis longtemps maintenant, une catégorie omniprésente de la doxa néolibérale. Elle est associée souvent à équitable, parce que l'équité a remplacé l'égalité aussi, voilà, d'autres substitutions. Réforme a longtemps appartenu au lexique de la gauche. Les réformateurs ont été des inventeurs de solutions à la question sociale depuis le début du XXe siècle, et ces réformateurs s'opposaient alors aux révolutionnaires, qui étaient partisans, eux, de l'abolition du marché et de l'État. La réforme s'est traduite à cette époque-là, enfin tout au long du début du XXe siècle, par la lente construction de l'État social, entre 36 et 45, pour faire simple, instaurant la sécurité sociale, les services publics, la mise en place du droit du travail, etc. Bref, ce que Robert Castel appelle l'avènement de la société salariale. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette catégorie de réforme a été annexée aujourd'hui par les adversaires néolibéraux, qui sont les adversaires les plus résolus de la réforme, justement, en question, au sens en tout cas, qui était le sien antérieurement. La réforme désigne désormais la remise en cause de la sécurité sociale, le démantèlement des services publics et du code du travail. De sorte qu'en changeant de locuteur, le mot a changé de sens. La réforme est devenue contre-réforme. La réaction néolibérale tente de passer pour un progrès, la régression pour une modernisation, les nostalgiques du XIXe siècle, en quelque sorte, pour des apôtres de la modernité. Et de la même façon, à l'aune de cette espèce de révolution conservatrice, comme disait Bourdieu, les acquis sociaux passent pour des privilèges, la défense des acquis sociaux pour la quintessence de la conservation, une attitude conservatrice. La crise, la même chose. De la même façon, une crise désignait autrefois un épisode grave mais limité dans le temps. Or, elle est devenue aujourd'hui chronique, la crise, on parle sans arrêt de la crise, ça fait 30 ans qu'on parle de la crise, elle est devenue chronique, sinon permanente. La crise économique, mère de toutes les crises, crise de l'emploi, crise du logement, crise des finances publiques, etc., dure depuis la deuxième moitié, en fait, des années 70. De sorte qu'après quelques décennies de crise, on peut faire l'hypothèse d'une régulation justement du capitalisme par les crises. Si dans le cadre de la doxa néolibérale, la crise a cessé d'être un accident pour devenir la norme, il faut supposer que la crise, que le cours forcé pardon, du mot crise, qui a cessé de désigner la chose, est destiné en quelque sorte à calmer les impatiences. Parce que si c'est une crise, ça ne va pas durer, quoi. Bon, donc c'est la crise permanente, on vous dit non, ne vous inquiétez pas, quoi. Et d'ailleurs, crise et réforme, dont je parlais tout à l'heure, font couple. Dans le cadre de la doxa néolibérale, mener des réformes doit permettre de sortir de la crise. On répète ça, voilà, c'est une espèce de truc qu'on mouline sans arrêt. Quoi. Voilà, les réformes, ça sert à sortir de la crise. Il y a tout le temps la crise et tout le temps des réformes. Quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, de la même façon, sociale, je l'ai indiqué déjà tout à l'heure, l'épithète sociale a également fait l'objet d'un espèce d'évidage total de son sens. Quoi. Rappelez-vous, le social, voilà, on pourrait penser quant aux origines proches, hein, de la sociale, comme disait Jules Vallès, bon, a cédé la place aujourd'hui à la social-démocratie, là, sa dernière invention de François Hollande. Qui est la social-démocratie de François Hollande, qui s'inscrit dans le même champ sémantique que l'Europe sociale, comme on dit, le dialogue social, les plans sociaux, etc., qui ont tous en commun leur caractère, justement, antisocial, pourrait-on dire. Voilà, social, ça veut dire exactement le contraire de ce que ça voulait dire, quoi. C'est l'exact opposé. Voilà. J'ai presque terminé. Encore un mot sur les labels, les étiquettes dans le champ politique. Ce brouillage sémantique du vocabulaire politique, mais on pourrait continuer hein, très, très très longtemps, mais je ne veux pas être trop long, s'accompagne d'une espèce de brouillage des marqueurs politiques et qui contribue, je crois, très fortement à désorganiser les repères de ceux qui sont justement les plus démunis de repères pour se recomprendre quelque chose à ce qui se passe dans le champ politique en question. La démonétisation du lexique politique marxiste a pour corollaire, d'une certaine façon, pourrait être le cours forcé du lexique des politologues et instituts de sondage. Elle induit en particulier deux choses quoi, qui me semblent tout à fait importantes. C'est l'opposition des semblables et la confusion des opposés dans le champ politique. Alors, l'opposition des semblables. Eh bien, la doxa politico-médiatique persiste à opposer gauche et droite de gouvernement, le PS et l'UMP, qui sont de facto de plus en plus indiscernables et qui contribuent ainsi, en les maintenant, à discréditer le point de vue de ceux qui considèrent, non sans quelques raisons, que gauche ou droite, c'est du pareil au même, ce qu'on entend dire par bien des choses aujourd'hui. Discrédit, bien sûr, que vient renforcer le crédit qu'apporte le Front National à ce point de vue avec son UMPS. Quoi. Alors, si le FN le dit, c'est donc que c'est faux. Bon, c'est peut-être un peu court, quand même. Hein. Bon. Et la recherche de pommes de discorde entre l'UMP, la droite décomplexée, et le PS, la droite complexée, comme dit Frédéric Lordon, cherche à accréditer la façade démocratique du jeu politique de l'alternance entre partis de gouvernants. Et, bien sûr, elle ne peut que renforcer la désorientation politique de ceux qui sont les plus éloignés du jeu politique. Alors, de la même façon, juste un mot encore sur la confusion des opposés, à l'inverse, la doxa politico-médiatique entretient délibérément la confusion entre Front de gauche et Front national en les rassemblant, d'une part, dans la catégorie des extrêmes. Alors, les extrêmes, c'est pas bien, quoi. C'est des gens qui font dans l'excès, quoi. Donc, c'est leurs excès qui les disqualifient, bien sûr, parce qu'ils sont extrêmes. Voilà. Et en les rassemblant aussi sous le label populiste, hein, c'est un label très, très en vogue aussi dans la pensée néolibérale, au prix d'une espèce de confusion qu'on entretient délibérément entre un peuple populaire, celui du Front de gauche, opposé aux classes dominantes, et un peuple racialisé, celui du Front national, opposé aux étrangers. Quoi. Mais on fait comme si, bien sûr, c'était au même peuple que les uns et les autres s'adressaient. C'est ce qu'on dit en les rassemblant sous l'étiquette populiste. Voilà, je vais conclure. De même que, dans la doxa, que la doxa néolibérale se situe en deçà de l'idéologie, les jugements qu'elle inspire se situent en deçà du fond et tendent aujourd'hui à se cantonner à la forme. Je lisais, avant, en préparant ce topo, un éditorial du Monde du 5 avril 2014 intitulé « Des réformes d'abord, des délais ensuite ». Alors, je cite l'article en question, enfin, je note des trucs. Il s'en prend, cet éditorial, au défaut de ponctualité. La France ne sera pas au rendez-vous. Au défaut de fiabilité. La France ne tient pas ses engagements. La France ne tient pas ses promesses. Au défaut de crédibilité. La France voit sa crédibilité écornée. Au défaut de sincérité. Il n'a pas fallu longtemps à Michel Sapin pour dire la vérité, enfin, sur les comptes. Au défaut de sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est même désespérant. C'est le ton maître d'école. Voilà. Alors, en fait, je crois que bon, ce type-là de discours qu'on voit de façon continue, qu'on entend sans arrêt à la télévision, dans le poste, dans les journaux, etc., est inspiré par le fait, je crois, que la monotonie du fond, qui procède de l'alignement du PS sur l'UMP, hein, supposé d'ailleurs un alignement qui est supposé dicté lui-même par les contraintes extérieures, l'absence de marge de manœuvre et tout ce vocabulaire aussi qui sert constamment. Hein, bref, le TINA hein, de Margaret Thatcher, il y a no alternative. Quoi. Bon, de toute façon, ben voilà, c'est comme ça. Donc, alignement donc, sur le fond impose en quelque sorte le repli du jugement politique sur la forme, sur le style politique. Ou si l'on veut, sur l'imputation des vices du système au manque de vertu des dirigeants. Et c'est ainsi que s'opère en définitive une espèce d'évacuation totale de la politique au profit du style politique, la com, comme on dit aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Gérard Mauger d'avoir quasiment tenu les délais. Alors, je confirme quand même le côté nettement paléo de votre discours, parce que ça va très très vite dans la novlangue néolibérale, et donc on ne parle plus de demandeur d'emploi. Aujourd'hui, on n'est plus demandeur d'emploi, on est en attente d'emploi. Ce qui change quand même tout. Voilà. Donc, Samuel, on t'écoute.
Bon, alors, Gérard Mauger m'a bien facilité le travail, en fait, parce que on peut presque considérer que ce que je vais dire, en fait, est le prolongement de ce qu'il vient de démontrer. C'est-à-dire que je pense également que considérer l'extrême droite comme simplement une pensée constituée qui réussirait à s'imposer d'elle-même, c'est en fait un leurre. Il me semble que c'est bien plus efficace, en quelque sorte, dans la critique de partir finalement d'une critique du néolibéralisme et dans mon cas tel qu'il est incarné notamment dans les médias. C'est important parce que penser qu'on pourrait mettre fin au racisme notamment par une dénonciation morale simplement, dire que le racisme, l'extrême droite, c'est pas bien, relève à mon avis du sens commun qui participe même à naturaliser en quelque sorte la pensée d'extrême droite. D'ailleurs, c'est un système bien huilé. Il y a des associations antiracistes qui sont liées au parti de gouvernement. Il y a des politologues qui sont omniprésents dans les médias, qui commentent le jeu politique du FN. Où on connaît chaque petite phrase de Marine Le Pen. Chaque petite phrase est commentée. Donc, ça revient vraiment à ce que disait Gérard Mauger, c'est-à-dire que l'extrême droite fait partie d'un style politique. On commente la forme, on ne commente plus vraiment le fond. Et il se trouve que l'extrême droite tend des pièges aux sociologues, qui est en particulier celle de l'illusion biographique. Je m'explique, Alain Soral, comme Maurras, comme Freund, ou d'autres leaders réactionnaires avant lui, ont appris à distiller des éléments biographiques, sélectionnés et arrangés, afin d'esthétiser leur propre trajectoire et la rendre compatible avec leur projet politique. Les ouvrages de Soral, les contenus des sites web fourmillent en effet d'éléments personnels qui permettent de retracer la saga de ce jeune descendant d'aristocrate sur le déclin, triomphant de la corruption morale des nuits parisiennes. Recueillant les confidences faites chez une émission de Mireille Dumas, aux côtés de sa sœur qui est l'actrice Agnès Soral, le nouvel adhérent d'Égalité et Réconciliation aura par exemple la sensation de savoir déjà tout d'un leader issu d'une famille traditionnelle, soumise à l'autoritarisme d'un père condamné en 73 pour escroquerie. D'autres éléments biographiques mis en sourdine, comme le fait que Soral a bénéficié de l'éducation du prestigieux collège Stanislas, un établissement privé et catholique qui prétend former ses élèves dans leur globalité, ou d'autres à l'inverse sont exagérément mis en avant pour prouver son œcuménisme politique, comme son très éphémère passage au Parti communiste, ou sa fréquentation des séminaires de Cornelius Castoriadis à l'école des études en sciences sociales, qui lui permettront un temps de s'approprier le titre de sociologue. Mais chercher ainsi dans le passé familial, réécrit par Alain Soral lui-même, les origines de sa formation, c'est se priver de répondre, en premier lieu, à la question de ce qui a rendu structurellement possible son insertion dans le jeu médiatico-politique depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est également se condamner à produire un discours psychologisant, mettant en avant l'affinité de son aristocratisme familial avec son discours barésien, alors que cette mise en correspondance est précisément le produit d'un travail sur soi et en rapport avec des structures du champ médiatique qu'il s'agit d'analyser. En reprenant le fil du récit un peu plus en amont, l'histoire change alors d'aspérité. Il ne s'agit plus de raconter la saga d'un personnage aspirant à être charismatique, mais de saisir en quoi la structure du champ médiatique a rendu possible le développement de ce type de position. Avant de devenir le leader d'Égalité et Réconciliation et d'être présenté par Manuel Valls comme l'ennemi d'État numéro 2 après Dieudonné, Alain Soral s'est fait connaître dans les talk shows comme essayiste soi-disant transgressif, un rôle qui sied à celui qui sonne impertinent, qui semble dire des choses pas si fausses, c'est-à-dire soufflant plus fort, mais dans le sens du vent, renforçant un bon sens populaire, imaginé nécessairement machiste et raciste. Sous cet angle, Alain Soral n'est pas un penseur ostracisé. Il est d'abord le produit d'un système médiatico-politique qui a besoin, pour parler de politique, d'en faire un produit esthétique et auquel s'appliquent des critères, les critères des spécialistes de l'audience. Ses dispositions personnelles, mêlant passage éphémère par le monde des bandes, la haute bourgeoisie parisienne et le monde people de la mode, se trouvent totalement ajustées à ces nouvelles attentes. Mélangeant l'argot de l'intellectuel avec une posture viriliste, il peut trouver là un terrain où s'expriment avec force des dispositions anti-légitimistes qui étaient totalement disqualifiées dans des émissions politiques classiques ou de variété non politisées de la période hors TF, ORTF, donc dans une période antérieure du champ médiatique. Ainsi, sur le plateau de Ciel Montmardi, en septembre 2000, Christophe de Chavanne organise un débat sur le féminisme en invitant Michel Boujna, Isabelle Alonso, elle-même journaliste et alors présidente des Chiennes de Garde, et un homme ordinaire qui est censé incarner l'antiféminisme. Que les Chiennes de Garde aient demandé à ce que l'on n'accepte pas Alain Soral sur le plateau, que cela ne tienne. Depuis la salle, Alain Soral interpelle quand même les participants, sous le regard complice de Christophe de Chavanne, qui lui fait donner un micro. Isabelle Alonso s'insurge. Aujourd'hui, s'il y avait un débat sur ce plateau sur l'antisémitisme ou le racisme, on ne dirait pas que l'on va mettre d'un côté les racistes et de l'autre côté les antiracistes, comme si c'était matière à opinion. Ce monsieur a déjà insulté les femmes sur un plateau. Mais l'émission n'est pas une émission politique, et l'opinion n'y est pas traitée sous le registre de la vérité ou de la bienséance. L'invité Soral éclipse l'insuffisant homme ordinaire antiféministe. Christophe de Chavanne l'invite à descendre des gradins et à se joindre au débat. Devenu un bon client parmi d'autres et circulant de plateau en plateau, Soral avait, quelques semaines plus tôt, déjà assuré le spectacle dans l'émission « C'est mon choix » sur un thème équivalent, s'opposant notamment à Roselyne Bachelot. Ces talk shows sont les lieux où se rejoignent plusieurs fils. Le politique, l'industrie du livre, l'entertainment. Ils ont besoin pour fonctionner d'éditorialistes capables, cas échéant, de se muer en écrivain. En feuilletoniste, écrivant à la commande pour se fondre dans les débats du moment. Ces derniers sont généralement sélectionnés au terme d'une discussion entre attachés de presse des industries culturelles et assistants des boîtes de production. Ils parlent vrai et clair, et leurs ouvrages ou les prises d'opposition doivent pouvoir être support à polémique. Les propos de ces éditorialistes peuvent avoir une apparence scientifique, mais sont d'abord totalement adaptés aux attentes médiatiques et à la publicité. Ainsi, Alain Soral a commencé à acquérir une légitimité dans les médias par l'écriture d'un livre sur la mode expliqué aux parents, qui mobilise des classements proches des sociostyles utilisés en marketing pour définir des cibles. Hippie, bon chic, bon genre, intello de gauche. Les auteurs produisent des catégories qui font vaguement penser à des groupes sociaux, mais définies à partir de leur intuition ordinaire, de ce qu'ils croient être des styles de vie. Comme pour les quiz des magazines féminins ou les horoscopes, ces catégories intuitives sont faites pour que le public s'identifie, pour que chacun puisse s'y reconnaître. La recette d'Alain Soral se trouve donc parfaitement adaptée aux talk shows qui mettent en scène des conflits entre des mœurs opposées et donnent la parole à un public profane qui parle à partir d'expériences intimes. Être capable de dire ce que sont les styles des jeunes aux parents, c'est devenir un de ces nouveaux clercs qui cultivent un double jeu, à la fois analyse de la société faisant croire qu'ils ont une position extérieure, d'apparence scientifique, et promoteurs de méthodes de savoir-vivre, valorisant leur propre expérience comme la norme à suivre. En publiant « Sociologie du dragueur » en 1996, Alain Soral tient ainsi un nouveau sésame qui lui ouvre à nouveau la porte de ses émissions de télévision. L'ouvrage regorge de références aux plus grands penseurs qui donnent vaguement l'apparence d'un travail savant, en réalisant une typologie de la femme, de la façon dont elle fonctionnerait et de la manière d'en prendre le contrôle. Mais la méthode se veut aussi opérationnelle, Alain Soral affirmant lui-même avoir 700 conquêtes au compteur. C'est pourquoi les propos tenus dans ses livres ne sont jamais détachés de sa personne, qu'il constitue en valeur d'exemplarité. Les normes qu'il prescrit, en particulier le comportement viriliste, sont une invitation à prendre exemple sur lui. Chaque fois que les médias invitent Alain Soral, ils ne font pas seulement la promotion du dernier livre qu'il a écrit, ils reconnaissent aussi peu à peu son autorité personnelle, qui se renforce avec la multiplication de ses essais. Être écrivain, c'est déjà une position d'appui plus stable que simple chroniqueur. En 1999, avec vers la féminisation au démontage d'un complot antidémocratique, Soral invente à la fois un problème social. Les femmes, et en particulier les féministes, auraient renversé la hiérarchie des sexes et seraient donc responsables du déclin des hommes. En même temps qu'il proscrit le comportement qui solutionnerait le problème, restaurer les normes traditionnelles de virilité masculine. Alain Soral accumule davantage de capital médiatique et donne une vision du monde plus personnelle encore. Si bien que les médias ne l'invitent plus seulement pour qu'il parle de ses livres. ils finissent par l'inviter pour ce qu'il est. Le 7 mai 2003, on le voit aux côtés de sa sœur Agnès Soral sur le plateau de Mireille Dumas dans Vie privée, vie publique. L'émission les présente comme deux vedettes, l'un écrivain et l'autre actrice, qui entretiennent un amour vache selon Mireille Dumas. Leurs difficultés relationnelles sont présentées sur le mode de troubles psychologiques datant de leur enfance. Alain Soral y dénonce ses névroses et son mal-être, qu'il explique aussi par le déclassement social de sa famille. La violence de son père, « Je suis un enfant battu », dit-il, sous l'œil du pédopsychiatre Marcel Ruffo, qui tente de comprendre son comportement. L'humour comme brio défensif, c'est magnifique, dit-il. Par ses apparitions répétées dans ses émissions télévisées, il a désormais la possibilité de se forger plus encore un personnage médiatique de manière à ce que son prénom capitalise une notoriété. Si dans l'abécédaire de la bêtise ambiante, Alain Soral est très critique du monde médiatique, il est pourtant d'abord le produit, en tant que personnage public, de l'ouverture d'un espace médiatique qui a fait disparaître les frontières entre les champs politiques, journalistiques et économiques pour faire exister ceux qui n'ont comme seule ressource que d'être des vedettes, comme c'est le cas de quelques noms lancés par la télé-réalité. Ils peuvent tout aussi bien se lancer dans la chanson, dans la politique ou encore le commerce de mode, tant qu'ils restent visibles dans les médias, puisque pour se maintenir, ils doivent constituer leur manière d'être comme un produit qu'il faut vendre. Mais ce type de position d'éditorialiste impertinent demeure toujours fragile, car le maintien d'invitations sur les plateaux reste intimement lié au bon vouloir des médias, et Alain Soral multiplie les ouvrages qui multiplient d'autant les possibilités d'invitation. Pour Éric Zemmour, l'adaptation à ces nouvelles règles semble encore plus facile. Membre du service politique du Figaro, il délaisse l'écriture des livres classiques à Alain Duhamel sur Balladur et Chirac pour des livres ajustés à ce nouveau format, comme Le Premier Sexe en 2006. Et il devient chroniqueur régulier pour l'émission On n'est pas couché de 2006 à 2011. Débuté par une hostilité au féminisme, la transgression se décline très vite sur d'autres thématiques privilégiées et marronniers de ses plateaux débats. Les banlieues ou l'immigration offrent une deuxième corde à l'arc transgressif tout à fait complémentaire et cohérente. Elle permet de publier de nouveaux livres en usant de la même fibre polémiste, Mélancolie française de Zemmour en 2000, Jusqu'où va-t-on descendre de Soral en 2002. Cette déclinaison est d'autant plus facilitée par les transformations que connaissent depuis plusieurs années le traitement médiatique ordinaire des quartiers populaires au journal télévisé, y compris sur le service public. Soral, Zemmour et d'autres ne font là qu'offrir au plateau d'émissions de divertissement la déclinaison livresque de ce que le traitement quotidien de l'information autorise désormais. Cette position d'impertinent de service garantit une grande exposition, mais reste difficile à pérenniser sur la durée. Elle est constamment menacée par la surenchère d'éventuels concurrents ou de nouveaux entrants dans le jeu médiatique. Et ces derniers sont nombreux, qu'on pense par exemple à David Pujadas, qui est un journaliste installé et qui publie lui-même régulièrement ses propres notes de reportage, mais aussi des faits diversiers, qui s'essaient à l'écriture comme La France Orange Mécanique de Burton en 2013. Donc tenir une telle position sur la durée suppose qu'elle soit combinée à d'autres types de positions, producteur, animateur, journaliste dans un titre connu, président d'une association ou d'un think tank. Pour se maintenir dans le système médiatique, les professionnels de la provocation doivent faire de la position d'éditorialiste impertinent une propriété complémentaire à d'autres types de ressources plus stables. C'est là une assurance vie ou une assurance risque, car pris dans cette nécessité d'exister par leur seule transgression, il arrive parfois que les bons clients éditorialistes ou journalistes aillent trop loin, ou plutôt qu'ils oublient qu'ils ne sont pas en position de faire plus que la claque sur les plateaux. Et Soral va avoir des difficultés à pérenniser sa position. En 2004, alors qu'il vient de publier un nouveau livre, Misère du désir, Alain Soral connaît sa dernière invitation sur le plateau de Tout le monde en parle. Avec le départ en 2006 du service public d'un Thierry Ardisson aux convictions royalistes notoires, Soral perd son principal soutien dans l'accès aux chaînes grand public. C'est à ce moment qu'il s'essaye une première fois à la politique et se rapproche de Dieudonné, en se présentant sur une liste antisioniste en vue des élections européennes. Il se retrouve une fois de plus sous le feu des projecteurs d'émissions d'actualité, mais cette fois comme objet d'investigation, comme dans complément d'enquête. Soral reste un client médiatique, mais en se constituant peu à peu en représentant politique, et non plus seulement comme transgresseur des questions de mœurs. Il est désormais moins considéré comme un amuseur que comme le porte-parole légitime ou le délégué d'idées politiques, c'est-à-dire qu'il se rapporte à des classifications institutionnalisées par l'État. Pour exister dans le champ politique, il ne suffit pas cependant d'affirmer son opinion, quelle que soit la verve de celui qui s'y emploie, comme c'est le cas pour être invité, par exemple, à C'est mon choix. Il faut, à minima, être capable de faire la démonstration de ses compétences proprement politiques et mobiliser des savoirs qui caractérisent les professionnels de la chose politique. La politique, ça reste un métier et elle oblige de ce fait à composer avec des instances partisanes qui régissent l'entrée dans la profession et notamment les investitures. Elle oblige à composer également avec d'autres agents qui vous instituent en concurrent direct de leur propre stratégie. Aussi, le comportement, le discours et les prises de position passées d'Alain Soral le prédisposent d'emblée à être rejeté aux marges du champ politique. En 2004, après avoir été condamné pour complicité de provocation à la discrimination ou à la haine raciale, on ne le voit plus apparaître que comme un intellectuel sulfureux, au même titre que Marc-Édouard Nab ou Tariq Ramadan sur les plateaux de Frédéric Taddeï, dont le fils est par ailleurs le filleul de Marc-Édouard Nab. La seule porte qui lui reste ouverte pour se reconvertir durablement à l'intérieur du champ politique est celle du Front National, qui regroupe les différentes traditions d'extrême droite. Alain Soral se trouve des affinités avec Bruno Gollnisch et Jean-Marie Le Pen et entre au Front National en 2006. La création en juin 2007 d'Égalité et Réconciliation, une association censée aider le FN à s'implanter en banlieue, donne à Soral un nouveau label. Invité à nouveau, le président d'association Soral dirige désormais l'équivalent d'un think tank et se propose d'apporter ses idées au mouvement frontiste. Mais 3 ans plus tard, il est poussé vers la sortie. Marine Le Pen, qui se prépare à la succession de son père, souhaite épurer le parti de ces éléments qui font du Front National un parti stigmatisé dans les médias, comme Alain Soral. Elle cite notamment « Je me méfiais de lui parce que je me suis toujours méfié de ceux qui, tout de suite, veulent vous faire comprendre qu'ils en ont une grosse. » Quand Soral, qui a ouvert entre-temps un bar associatif en 2007 avec Serge Ayoub, une figure du mouvement Bonne Aide, et Frédéric Chatillon, un ancien du groupe Union Défense, s'aperçoit qu'il ne sera pas la tête de liste FN en Ile-de-France pour les européennes de 2009, il part de son propre gré pour se présenter avec Dieudonné sur la liste du parti antisioniste qui récolte 1,3% des voix. La possibilité pour Alain Soral d'engager une carrière politique par les voies institutionnalisées se retrouve alors considérablement amoindrie, mais il lui reste encore une série de ressources. Une notoriété acquise sur les plateaux de télé, en tant que pamphlétaire, une structure associative, et surtout une connaissance des logiques de fonctionnement des champs médiatiques, et dans une moindre mesure politique. À compter de 2009 et de son départ du Front National, Alain Soral ne se contente plus de diffuser sur son site d'information les conférences d'égalité et réconciliation. Il se livre chaque mois, face caméra, à un entretien fleuve en plusieurs parties, dépassant régulièrement 1h30. Le dispositif reproduit ce dont Soral a toujours rêvé à la télévision, mais n'a que rarement pu obtenir. Seul et sans contradicteur, surtout sans interruption de la part de comiques ou d'autres intervenants, Alain Soral développe longuement sa vision du monde. Les vidéos retravaillées au montage et sur lesquelles sont ajoutés extraits de journaux télévisés et musique sont déposées sur la plateforme Dailymotion, accessible depuis les moteurs de recherche. Soral sait produire le buzz autour de celle-ci, mais pas seulement en raison de ses analyses. Régulièrement, il y donne ses vieilles connaissances au show business, comme dans cette vidéo de juin 2012, vue plus de 93 000 fois contre 59 000 pour celle du mois précédent, où il est expliqué qu'Ardisson s'habillait en noir, référence au fascisme italien. D'après des infos, ça reste à vérifier, le deuxième prénom de son fils serait Benito, et il était un antisémite carabiné. Aux petites fiches ordurières brandies sur telle ou telle personnalité, éphémère passage dans le porno de la compagne de tel ou tel intellectuel médiatique, pratique échangiste de tel ou tel autre, succèdent les bribes d'analyse d'actualité développées autour d'extraits de vidéos captés sur la TNT ou Internet. Loin du mythe qui voudrait que les nouveaux moyens de communication soient un outil permettant à tout un chacun d'accéder à la parole publique, ces derniers ont surtout pour effet d'empêcher le champ médiatique de se purger totalement de ses anciens transgresseurs et conduits. En tant que prolongement du champ médiatique classique, Internet rend possible le maintien durable d'acteurs en marge du champ médiatique central, surtout s'ils sont capables de parler d'une façon qui sonne comme informée, sur les pratiques et l'intimité de ceux qui sont encore au centre. Pour maintenir l'attention, Soral continue de faire ce qu'il faisait déjà sur les plateaux d'Ardisson. Il attaque nommément une série de personnes, se déclare ostracisé, alors qu'il ne l'est statistiquement pas plus qu'après 2003, et qu'il est par exemple invité 4 fois à Ce soir ou jamais entre 2007 et 2011. Ce que cette micro-entreprise politique a sans nul doute réussi mieux que nul autre auparavant, donc égalité et réconciliation, c'est l'exploitation des relations entre les médias installés et l'arrière-boutique des grandes chaînes de télévision. À travers ces vidéos, l'extrême droite apparaît subitement comme à même de maîtriser les codes de la contre-culture, de ce que les commentateurs pour étudiants de Sciences Po appelleraient la politique 2.0. Mais en réalité, le tournant pris est surtout celui d'un traitement esthétique de la politique, que les titres ou émissions visant l'avant-garde culturelle promeuvent déjà à l'envi, depuis le Petit Journal, en passant par les Inrocks ou les émissions branchées du câble. Les vidéos d'égalité et réconciliation ne commentent pas seulement l'actualité, elles essaient de faire l'actualité en rebondissant et alimentant le flux continu de buzz et de rumeurs. Sur C'est à vous, sur France 5, que Gérard Mauger connaît bien, une émission sur l'actualité la plus diverse, autour d'un dîner simple et original, le journaliste Patrick Cohen reproche à l'animateur Tadei d'avoir invité Soral. L'échange fait du bruit, Soral en reparle dans ses vidéos. Face aux rumeurs de suppression de l'émission de Tadei, les Inrock, qui commandent depuis des années les petites phrases et les positionnements du sérail politique parisien, se mobilisent. Ne faudrait-il pas quand même sauver l'émission de Tadei ? Une télévision intelligente, disent-ils, un feuilleton du contemporain. Les Inrock entretiennent Ardisson dans une interview fleuve, en lui demandant ce qu'il en pense. Soral en parle à nouveau dans sa vidéo du mois pour redire tout le mal qu'il pense d'Ardisson. On évoque Soral également à l'occasion de la publication de son livre coécrit avec Éric Nolot, qui est un ancien chroniqueur de Ruquier, lui-même ancien chroniqueur d'Ardisson. Nolot est alors invité sur les plateaux, là aussi quitte à se faire critiquer pour cette collaboration, comme sur le plateau de la nouvelle émission d'Ardisson. La circulation circulaire de l'information sur le monde médiatique et l'endogamie du sérail audiovisuel tournent ici à plein. Donc pour conclure, la croyance dans le pouvoir médiatique a pour Soral une utilité. Il entretient, par sa relative visibilité médiatique, l'illusion d'être un poids lourd dans l'extrême droite et le champ politique. Or, c'est surtout dans cette capacité à orienter les débats politiques dans le champ médiatique que les disciples d'Alain Soral semblent avoir enregistré quelques succès récents. Ce fut le cas notamment avec la polémique sur la théorie du genre, reprise par le Front National, mais aussi l'UMP, obligeant le gouvernement à entrer dans le débat et à accepter implicitement, comme l'a fait Vincent Peillon à l'Assemblée nationale le 28 janvier 2014, l'existence d'un concept qui n'a aucune pertinence dans le champ scientifique. Dans cette configuration, il se met en place une division du travail politique où égalité et réconciliation, bien que située en marge du champ politique, diffusent des fausses informations qui inondent le champ médiatique et deviennent les cadres à partir desquels sont menés une partie des débats politiques. Mais en dehors de cette influence non négligeable du côté du champ médiatique, une association de taille modeste peut-elle à elle seule remodeler les orientations politiques d'une frange importante de l'électorat ? Cela serait ignorer la force que tirent les instances partisanes classiques de leur bureaucratie électorale, de leurs réseaux clientélaires locaux, de leur inscription sociale, des sociabilités parapolitiques qu'elles sont en mesure d'organiser. Sur ce point, l'analyse de l'influence d'une association comme Égalité et Réconciliation reste des plus difficiles. Merci.
Merci beaucoup à nos deux intervenants. Avant de, pendant que le débat avec vous s'installe, que Bertrand fait passer le micro à ceux qui souhaitent intervenir, j'avais envie de m'adresser un peu à nos deux intervenants pour reprendre un petit peu le titre de l'ouvrage de Gérard Mauger. Qu'est-ce qu'on fait pour résister à tout ce que vous venez de tout ce dont vous venez de nous parler? C'est peut-être un petit peu plus difficile par rapport à l'intervention de Samuel. J'avais quand même quelques pistes à proposer par rapport à la novlangue. J'aurais bien voulu savoir ce que vous en pensiez. Tout d'abord, vous avez dit, et c'est vrai, que cette novlangue, elle a toutes les chances de passer inaperçue, c'est-à-dire que dans son cœur, dans vraiment ce qu'elle produit, c'est-à-dire le fait de fermer le champ des possibles, de nous enfermer dans un « il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'autre solution », etc. Ça, effectivement, ça a toutes les chances de passer inaperçue. En revanche, il y a un certain nombre de marqueurs visibles dans cette novlangue, ce qu'en linguistique on appelle des signifiants indiciels, c'est-à-dire des mots qui sont des indices de la langue qui est parlée. Je pense à gouvernance, je pense à excellence, je pense à qualité, cercle qualité, etc., etc. Et je pense qu'une des premières choses qu'on pourrait faire, c'est dans tous nos milieux professionnels, dans toutes nos discussions, de systématiquement faire très attention à ces mots et de les reprendre et de demander à ceux qui les utilisent de les justifier. Et par exemple, gouvernance, ça ferait du bien que dans la recherche, en sociologie, en géographie, etc., dans pas mal de disciplines des sciences sociales, on fasse attention à ce qu'on dit quand on dit gouvernance. Donc il y a déjà tous ces mots qui sont très très visibles, qui contredisent un petit peu le côté avec lequel je suis complètement d'accord, totalement inaperçu de cette novlangue, sur lesquels il faudrait vraiment qu'on soit vigilant, collectivement, individuellement, en particulier dans notre milieu professionnel, mais pas seulement. Un autre aspect important, vous avez mentionné différents exemples effectivement tout à fait intéressants comme la crise, comme exploitation, oppression, remplacée par exclu, etc. Tous ces phénomènes lexicaux, ils ont un point commun dans la nouvelle langue néolibérale, c'est de systématiquement gommer les causes des problèmes. C'est-à-dire qu'un l'exploitation, ben, y a un exploiteur. L'oppression, il y a un oppresseur. L'exclu, il n'y a pas d'excluer. Ça n'existe pas dans la langue. Donc ça enlève tous les... Donc là, c'est sur substitution d'un mot, mais ça peut être aussi sur création d'un mot. La mondialisation, on a un phénomène qui s'appelle en linguistique la nominalisation, c'est-à-dire à partir d'une phrase, on fait un nom. Et donc la mondialisation, ça nous dit quelque chose sans nous dire qui fait quoi, qui a mondialisé. Ça nous met devant le fait accompli de quelque chose, effectivement, sur lequel on n'a absolument aucune portée. Et je pense que systématiquement, quand on peut, quand on a la possibilité, si on peut vraiment à chaque fois repérer tous les mots, toutes les formulations qui gomment systématiquement les causes des phénomènes et qu'on les ramène, qu'à la place de dire mondialisation, on dise, je ne sais pas moi, libre-échange de marchandises ou des choses un petit peu plus claires, je pense que c'est une autre piste. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'était sur le caractère performatif de la novlangue. Effectivement, la novlangue a indéniablement un caractère performatif, mais comme toute langue dominante, et sans doute comme tout discours politique. Donc effectivement, elle ne fait pas que dire la réalité, mais elle fait advenir la réalité. Mais certains chercheurs qui ont travaillé sur la novlangue néolibérale ont mis en avant, je pense en particulier à Marie-Dominique Perrault, qui a écrit un article qui se trouve sur Internet, qui est absolument brillant. Ça date, hein, mais c'est toujours d'actualité. Ça s'appelle « Mondialiser le non-sens ». Donc déjà rien que le titre nous dit bien de quoi il s'agit. Et elle montre, elle, que ce qui peut caractériser la novlangue néolibérale, c'est justement son caractère contre-performatif. Alors ça ne remet pas en cause du tout ce que vous avez dit. Il y a de toute façon ce caractère, effectivement, de faire advenir la réalité dont on parle, à force de nous parler de qualité, de gouvernance, d'excellence. Ça, effectivement, ça a un impact dans notre vie. Mais ça a aussi un caractère contre-performatif dans le sens quand dire, c'est ne pas faire. Puisque la formule de la performativité, c'est quand dire, c'est faire. Donc en disant quelque chose... On produit, on fait un acte. Et l'inverse, c'est quand dire, c'est ne pas faire. Et c'est vrai que c'est qu'une des choses qui caractérise la novlangue néolibérale et à laquelle on peut être très vigilant et contre laquelle on peut s'opposer, c'est le fait que, par exemple, je prends un exemple de mon milieu professionnel à l'université, au moment où l'individualisme règne, au moment où la concurrence est générale entre tous, contre tous, on n'a jamais autant entendu parler de communauté. Et c'est vrai que bon, j'en parle. Et alors c'est vrai qu'il y a un caractère très insidieux à ça. J'en parle parce que justement, j'avais produit un article sur le terme communauté universitaire, mais j'avais eu envie de produire cet article un jour où moi-même, en réunion syndicale, j'avais proposé un texte qui disait l'ensemble de la communauté universitaire. Puis j'avais vu un camarade qui avait fait une petite moue, genre c'est quoi la communauté universitaire. Et du coup, je m'étais rendu compte effectivement. Et là, si vous regardez côté communauté, maintenant il y a la communauté de la mode, il y a des communautés de tout. Donc voilà, c'est en fait au bout du compte, c'est dénoncer le mensonge, quoi. À un moment donné, ce qui manque dans toutes les analyses qui sont très très nombreuses sur la novlangue néolibérale, ce qui manque, c'est la notion qu'on est en train de nous mentir et que ce serait bien qu'à un moment donné, on arrive à dire aux menteurs, vous nous mentez.
Juste un mot, oui, pour dire, je souscris intégralement hein, tout ce que vient de dire ma voisine, quoi. Bon, je pense que, comment dire, par rapport à se donner des armes pour lutter, alors d'abord, je pense que voilà, le premier signal, c'est de faire attention. Voilà, de faire attention à dire, mais qu'est-ce qu'on nous dit, là ? Voilà, pourquoi ils ont changé de mot ? Ça sert à quoi, au juste ? Ou bien ça veut dire quoi, au juste, votre truc, quoi ? Voilà, bon, je pense que, se réapproprier un minimum d'esprit critique, ne serait-ce que en utilisant, par exemple, les synonymes anciens qui sont disparus. Donc, je pense que ça, c'est une des clés, peut-être. Non, mais pourquoi vous l'avez remplacé ? Ça ajoute quoi, votre nouveau truc, là ? Bon, voilà. Et en général, pas rien. Hein, c'est pas du tout insignifiant, justement, que de remplacer classe par groupe, ou par couche, ou par strate, ou des choses comme ça. Bien sûr, c'est pas du tout indifférent que de faire des choses comme ça. Remplacer gouvernement par gouvernance, vous avez raison, c'est pas du tout insignifiant, ça veut dire quelque chose. Mais voilà, le problème, c'est d'obliger les gens qui l'emploient à dire, mais vous voulez dire quoi là ? Pourquoi vous dites pas gouvernement ? Bon, ça serait intéressant de vous voyez, interpeller, littéralement. Hein, je pense interpeller systématiquement. Quand on voit apparaître un nouveau machin dont on sait pas très bien ce que ça veut dire, quand on dit mondialisation, voilà, bon, par exemple, celui celui-là, je pense qu'il est aussi un de ces mots où voilà, dire, c'est ne pas faire, quoi. Ou exactement, c'est dire qu'on fait exactement le contraire de ce qu'on prétend faire. De toute façon, mondialisation, c'est bien, quoi. Si tous les gens du monde voulaient bien se donner la main, quoi. Bon, c'est formidable, la mondialisation, quoi. Bon, le problème, c'est que, voilà, c'est ça, quoi. C'est les ouvrières du Bangladesh, c'est ça, la mondialisation. Voilà, bon, enchantée, heureuse, la réduction des inégalités sur terre. Enfin, c'est exactement diamétralement opposé à ça. Voilà, bon, donc... je pense que le minimum, c'est ça, c'est sans doute la vigilance et l'interrogation systématique. Je pense que voilà, il faut s'habituer à ça. Alors, c'est une espèce de réflexe à acquérir, mais quand on voit apparaître un mot nouveau, il faut se dire systématiquement, c'est louche. Voilà, je pense qu'apprendre à se dire ça, c'est louche. Ça remplace quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi le changer? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Je pense que voilà, c'est une espèce de réflexe minimum à avoir qui me semble voilà, être une espèce de réflexe de sauvegarde, quoi, littéralement. Voilà.
Trois demandes de prise de parole.
Oui, un tout petit point par rapport à l'intervention de Samuel Bourron. J'ai bien entendu que tu considères Freud comme un penseur réactionnaire. Il me semble que non. Il me semble que la psychanalyse est du côté de l'émancipation de manière générale, qu'elle a été interdite.
C'est Freud, c'est pas Freud. C'est Julien Freund.
Freud. Ouais.
Alors j'annule tout ça.
Bah, c'est une honte. Oui.
J'ai une question sur les mots. J'ai une question sur les mots. Le titre de la conférence, c'est les nouveaux réactionnaires. Est-ce que donc la nouvelle langue néolibérale, pour moi, il me semblait qu'on ne pouvait pas considérer que c'était de l'ordre de nouveaux réactionnaires ou des réactionnaires, puisque la question des réactionnaires, c'est celle de dire qu'il y a un retour vers un ordre antérieur qui était meilleur. C'est la position de l'Action française avec le roi, c'est la position des intégristes, c'est la position des défenseurs d'une armée éternelle. Et d'église éternelle. Et il me semble que cette question-là a eu un enjeu historique parce qu'on n'analyse pas de la même façon la montée du fascisme qui est apparu comme quelque chose d'extrêmement moderne, les fascistes italiens ayant su faire alliance avec les futuristes, avec les nazis ayant su convaincre les étudiants, les médecins, les instituteurs, en premier, enfin, parmi les premiers. Et donc, ce n'est pas des forces réactionnaires typiques, en tout cas. Alors, souvent, il me semblait qu'avant, on opposait les forces qui étaient réactionnaires, comme la dictature de Franco ou celle de Salazar, qui était abominable et réactionnaire, avec des dictatures fascistes qui avaient un autre fonctionnement, et aux dictatures militaires, comme celle de l'Angleterre, etc. Bon, c'était ça ma question.
C'est par rapport à ton exposé, Gérard, et aux remarques que ta voisine a faites.
Véronique.
Moi, je me demande si ce n'est pas quand même, dans cette nouvelle langue, ce n'est pas un espèce d'impérialisme du vocabulaire et des concepts et des mots technocratiques qui envahit absolument tout l'espace. Et je pense que la télévision est un relais très important parce que si on regarde le journal télévisé, les chaînes publiques, ce vocabulaire est absolument omniprésent. Il fait partie de la vie, quoi. Et il n'y a pas moyen d'y échapper, quoi. C'est une espèce de prison sémantique. Et je pense que c'est vraiment... le vocabulaire des grands rapports à Bruxelles, etc.
Oui, moi j'avais envie de vous interroger sur la notion qui était beaucoup employée de performativité de ces nouveaux termes, en fait, parce que j'ai un petit peu l'impression que derrière ce terme-là, il y a une multitude de processus possibles différents et qu'en nommant ça performativité, on est un petit peu nous-mêmes dans une espèce de fascination de l'inéluctabilité de l'imposition de cette nouvelle langue, etc. Et de, ben voilà, c'est performatif, donc quand les gens l'emploient, ça y est, ça advient. Et il y a quelque chose là, comme si nous-mêmes, on était un petit peu... fasciné par le pouvoir magique de cette langue. Et du coup, est-ce que vous avez des pistes sur disons, de manière un petit peu détaillée, les processus à la fois de diffusion, d'appropriation, etc., de ces différents termes, et comment dire c'est faire, comment ça se fait que dans plusieurs cas, dire ça puisse être faire, et quels sont un petit peu, parce que je pense qu'il y a une variété assez importante de processus derrière ça, même si là, je ne suis pas capable de formuler d'hypothèse là-dessus. Et à la fois aussi parce que finalement j'ai l'impression que tout le monde est très conscient de cette évolution du langage et qu'on la prend tous avec une certaine dérision, on dit tout le temps, enfin les gens voient souvent les mots en disant oui comme on dit maintenant ou comme on ne dit plus, enfin et y a, enfin on essaye de créer aussi des petites distances comme ça, des petites marges de manœuvre, et enfin comment est-ce qu'on peut essayer d'appréhender la valeur de ces, ou l'effectivité de ces marges de manœuvre et de ces appropriation, voilà.
Je rajoute un mot. Quand on a travaillé sur les luttes étudiantes et on réfléchit à partir de là sur l'action collective et la performativité de la parole, la prise de parole, il nous paraissait important en effet de rappeler que, un peu dans la suite des travaux d'Austin, la performativité, l'efficacité du langage, elle est toujours liée à des conditions sociales de réception, à des qualités du locuteur et au dispositif. Et donc, peut-être, c'est une perche que je tends.
Qui commence ?
Je veux commencer,
Simon ?
Non, mais comme tu veux. Hein.
Je peux juste faire...
Oui, vas-y.
J'essaie de faire une réponse globale à ce qui me semble être la problématique générale qui est posée par les questions. Ce qui me semble important, c'est dans ces questions sur la performativité, sur la nouvelle langue, c'est que elle. Elles permettent aussi de comprendre que la politique et la communication, les mots, sont aussi un rapport de force, en fait. C'est-à-dire que ce sont des rapports sociaux qu'on peut aussi objectiver par, tout simplement, en se demandant qui sont les journalistes qui sont à la télé, qui sont les politiques qui forment ces messages. Alors, quand je dis ça, c'est non seulement qui ils sont socialement, c'est-à-dire... quelle est leur origine sociale, est-ce qu'ils viennent de la grande bourgeoisie, comme ce que les Vincent Charlon ont montré hier, est-ce qu'ils viennent plutôt de classe dominante, donc quelle est la part originaire des classes populaires, mais c'est aussi comment ils sont formés, donc dans quelle école ils passent, Sciences Po, l'ENA, Et qu'est-ce qu'on y apprend aussi ? C'est-à-dire que il me semble qu'un élément décisif, c'est que de l'extérieur, on a l'impression qu'on apprend la politique, qu'on apprend le journalisme par une sorte de passion pour la politique, pour les grandes idéologies. Alors, en fait, pas du tout, quoi. S'il y a bien un truc qu'on apprend dans une école de journalisme ou dans des IEP ou à l'ENA, c'est surtout à communiquer, en fait. C'est l'idée que le message devient efficace si on apprend à passer à ce qu'il passe pour authentique, à parler vrai, à être... c'est le développement d'un savoir-être. C'est une focalisation sur la forme plutôt que sur le fond. Par exemple, dans ces écoles, il y a des cours avec des coachs vocaux, des cours sur l'image, où on développe une réflexivité sur la manière de contrôler son image, sur la manière de se contrôler. On apprend à parler comme les chanteurs apprennent à chanter, c'est-à-dire en faisant vraiment un travail sur la voix. Et si vous voulez, ce que je veux dire par rapport notamment à ce que disait Véronique, c'est que au final, ça fait que là où ils prennent plaisir, finalement, c'est à bien communiquer, en fait. Et le politique devient quelque chose de secondaire, en quelque sorte. Et il me semble que ces intermédiaires culturels, ces médiateurs, ces montreurs de communication, finalement, sont malgré eux, enfin, contribuent aussi à relayer, reproduire des rapports de domination, reproduire un ordre social.
Bon, j'essaie de répondre peut-être à la première question d'abord sur est-ce que la doxa néolibérale est à proprement parler réactionnaire ? Je maintiendrai que oui, même si elle n'est pas seulement réactionnaire, mais elle est aussi réactionnaire. Elle est au moins réactionnaire sur un plan, je crois, objectivement, je crois, au sens où un de ses axes tout à fait centraux, quand même, à mon sens, c'est la destruction de l'État, tout court. Hein, trop d'État, il y a toujours trop d'État. Bon. En particulier, tout ce qui est l'État, ce qu'on appelait l'État social ou l'État-providence, si on veut, il s'agit de détruire cet État-là méthodiquement. C'est-à-dire retour au 19e siècle, ça s'appelle retour au 19e siècle. C'est retour à un État antérieur qui, de ce point de vue, est un État rêvé. C'est un État, parcimonieux, réduit à ses fonctions régaliennes, quoi. De ce point de vue-là, je crois qu'on peut dire que la doxa néolibérale, elle est réactionnaire. Elle n'est pas que ça, hein, je suis d'accord, mais elle est aussi ça. Voilà. Elle est au moins sous ce rapport-là, ça autorise, je crois, à le dire, parce que c'est quand même pas un truc sans importance, c'est un enjeu même, je crois, tout à fait central. Par rapport à ce que disait Francine, c'est vrai qu'il faudrait faire une chose que je n'ai pas faite, hein, mais montrer, enfin, essayer d'établir la source, hein, de cette novlangue, où est-ce qu'elle se fabrique, quoi. Bon, où est-ce qu'elle se fabrique et comment elle se fabrique. Alors je pense qu'il faudrait suivre un circuit qui est sans doute très très long, que j'ai indiqué de façon très très allusive comme ça, mais ce serait un vrai travail que de faire. Je pense qu'il faudrait s'intéresser sans doute d'abord aux luttes dans le champ intellectuel ou dans différents champs intellectuels nationaux et internationaux. J'ai mentionné très vite la Société du Mont-Pèlerin, il faudrait parler de Friedrich von Hayek ou des gens comme ça, hein, ou en France la Fondation Saint-Simon, etc. Bon, et de voir comment ces luttes au sein du champ intellectuel avec des prises d'opposition incarnées par des think tanks identifiables, fort anciens, actifs, d'ailleurs, hein, très, 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 très actifs, ont été relayées petit à petit dans ce que Alain Garrigou appelle les écoles du pouvoir, les grandes écoles, quoi, l'ENA, Sciences Po, HEC, etc. Quoi. Bon, comment voilà, ces grandes écoles se sont emparées de ce discours-là, des grandes écoles qui sont évidemment très très performatives, pourrait-on dire, au sens où elles produisent des gens formés comme ça, qui à leur tour vont coloniser les institutions étatiques ou para-étatiques, Bruxelles, des choses comme ça, qui vont peupler en quelque sorte ces grandes institutions, vont former aussi les journalistes, les grands journalistes, les écoles de journalisme aujourd'hui, ce que tu dis, Cameron Marketing, Lafarge, bon, c'est intéressant de voir voilà, qu'est-ce qu'on leur apprend, comment ils parlent, quelle langue ils pratiquent, ils vont ensuite la parler à la télévision, et alors, voilà, se pose la question, là on en vient comme ça à la question de la performativité, alors, c'est vrai qu'il faudrait s'interroger à la fois sur deux choses. Quoi. Quand on dit performatif, bon, c'est un programme d'enquête, hein, tout au plus. Ça sera efficace que pour autant que des gens qui le parlent ont le pouvoir de faire advenir ce qu'ils disent. Bon, alors, ça renvoie, Bertrand l'indiquait bon, à juste titre, à la fois à la capacité de parler avec autorité. Mais voilà, si ce que je dis est vrai à l'instant d'avant, c'est des gens qui, quoi qu'ils disent, parlent avec autorité, voilà, parce qu'ils sont investis d'une autorité scolaire, étatique, de classe, etc. Bon, voilà, donc ils sont capables de faire croire, en tout cas, que ce qu'ils disent est la manière correcte de penser ou la manière dominante de penser. Et dominant, ça veut dire qu'elle domine, quoi. Bon, tout simplement, c'est-à-dire que les gens. Voilà, ou bien se taisent quand ils l'entendent, ou bien, alors voilà, c'est la question de l'appropriation qui est évidemment tout à fait essentielle. Est-ce que finalement le tout venant s'approprie ce genre de discours ? Bon, je crois pas, hein, je crois pas que tout le monde s'approprie ce genre de discours. Il y en a, oui, d'autres, non. Voilà, alors parmi de non, il y a, je pense, je pense pas qu'on parle de gouvernance dans les classes populaires, quoi. Bon, ça m'étonnerait, quoi. Bon, je n'ai pas fait d'enquête sur la question, mais ce serait intéressant de le faire, hein, de voir qu'est-ce qui est repris et qu'est-ce qui ne l'est pas, ou qu'est-ce qui ne saurait l'être. Pour des raisons qu'il faudrait élucider. Néanmoins, bon, je pense aussi que c'est plus répondre encore aux manières de à ce que disait ma voisine à propos des manières de se battre. Hein, moi, je me bats contre mes étudiants. Ça m'arrive très très souvent, quoi, dans des thèses. Je dis mais pourquoi tu dis élite ? Moi, je récuse complètement qu'on dise élite dans les thèses que je dirige. J'en ai eu une très bonne thèse, d'ailleurs, hein, où je me suis battu en vain, d'ailleurs, contre la présence d'élite, y compris dans le titre. Bon, voilà, parce que alors, c'était accueilli par, je ne sais plus qui disait ça, au fond de la salle, quoi. Quelqu'un qui, bon, n'en pensait pas moins, Mais je disais, oui, mais quand même, moi, bon, voilà, hein, si je veux avoir une chance d'eux, je ne vais pas foutre bourgeoisie ou classe dominante comme je l'invitais à le faire, quoi, parce que je vais me faire, bon, je vais me faire remarquer, taxer, machin, bon, voilà. Donc c'est une espèce de prudence, alors même si on met, voilà, des manières de se défaire, c'est foutre des guillemets. Alors, moi aussi, j'en mets partout, quoi, des guillemets, quoi. Bon, c'est une maladie, mais bon, voilà, quoi, qu'on me reproche à juste titre, mais voilà, je sais bien pourquoi je mets des guillemets partout, quoi, voilà. C'est pour ça, alors c'est vrai, les guillemets, c'est, voilà, cette espèce de prudence, de vigilance, où on fait gaffe à ce que dire oui je le dis mais enfin ben, c'est pour me faire comprendre quoi mais voilà je n'en pense pas moins mais je pense que bon il faut faire un pas de plus que foutre des guillemets et mettre ce qu'il faudrait mettre ouais, mettre le mot qu'il faudrait mettre. Je crois que la résistance dans les luttes symboliques qui sont aussi les luttes politiques sont aussi des luttes symboliques chez les intellectuels, ça passe à maintenir le cours comme le font les autres, maintenir un cours forcé d'un certain type de vocabulaire pour et récuser, justement, parce que je ne vois pas d'autre façon que de faire, hein, que de récuser un vocabulaire qu'on voudrait nous imposer. Donc, bah, non, je refuse, de, voilà, je refuse jusqu'à nouvel ordre de changer de vocabulaire. C'est un acte, je crois, de résistance. C'est pas héroïque, hein, mais bon, quand même, assez pour occasionner des luttes réelles. Moi, je me suis peigné avec des étudiants, hein, voilà, sur des trucs comme ça, un certain nombre de fois. Ça passe jusque chez nous, quoi, voilà, ces choses-là. Et ça a l'air indifférent, je ne crois pas que ça le soit tout à fait. Voilà, je ne crois pas que ça le soit tout à fait. C'est comme ça qu'on ringardise, comme on dit aujourd'hui, voilà, un style de pensée, un mode de pensée. Marx s'est réglé depuis longtemps, c'est totalement ringard, mais Bourdieu, ça le sera bientôt si on se laisse faire, quoi. À mon avis, ça sera pareil. Je pense que ce sera ringardisé tout pareil, parce qu'on vous dira, non, quoi, voilà, ça date, c'est bon, passé, dépassé, machin, etc. C'est nous pend au bout du nez. Renoncer au vocabulaire, c'est ça aussi, très souvent. Pas toujours, hein, mais souvent, c'est aussi ça.
Vous m'autorisez à rajouter un mot ?
Bien sûr.
J'ai demandé la permission de rajouter un petit mot sur les questions qui ont été posées. Il se trouve que je travaille là-dessus, donc j'ai un tout petit peu des idées là-dessus. Sur la question de Pascal, je suis complètement d'accord avec ce que dit Gérard. Je pense qu'effectivement, c'est une langue réactionnaire. Certains de mes petits camarades qui travaillent sur le néolibéralisme parlent maintenant de néo-féodalisme et montrent de manière extrêmement convaincante en quoi le néolibéralisme est un retour à un ordre ancien, mais carrément très, très, très ancien. Sauf qu'on fait tout ça sous couvert, hein, d'une rhétorique, effectivement, qui est moderniste, technologiste, qui, effectivement, est technocratique, mais ce n'est qu'un aspect du problème. Faudrait pas assimiler ce qu'on peut appeler la novlangue néolibérale uniquement à la langue technocratique ou à la langue managériale. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. Si vous voulez des choses sur la langue technocratique et sa diffusion, en particulier dans les institutions européennes, il faut regarder les travaux de Corinne Gobin, qui en particulier a fait, il y a quelques années déjà, mais c'est très, c'est vraiment très frappant, qui a fait une analyse des discours à la Commission européenne de Bruxelles, et avec des données statistiques, elle montre comment des mots sont systématiquement gommés de tous les textes officiels et remplacés par d'autres. Donc il y a ça. Alors, sur l'histoire de la performativité et du fait, est-ce qu'on est dupe, est-ce qu'on n'est pas dupe, etc., je pense qu'il y a deux choses. Enfin, selon moi, hein, l'état où j'en suis de réflexion là-dessus. Je pense que ce n'est pas parce qu'on met des guillemets, je pense que ce n'est pas parce qu'on dit comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire quand on montre toute une série d'attitudes qui prétendraient qu'on est immunisé de cette langue, qu'on n'est pas dupe, qu'on prend tout ça, qu'on le dit parce qu'il faut le dire, mais qu'on sait bien. C'est pas parce qu'on fait ça que les mots ne gardent pas une force effectivement de l'ordre performatif. Je prends un exemple encore une fois de mon milieu professionnel. C'est à force de parler de gouvernance qu'on a détruit le mode traditionnel de fonctionnement de l'université depuis sa création au Moyen-Âge, à savoir la collégialité. Voilà. Et si on avait tous collectivement été plus attentifs, si on avait lu l'article du Monde diplomatique de 2000 de Bernard Cassin, qu'est-ce que la gouvernance, et si on avait été plus attentifs, on n'aurait pas convoqué des réunions sur la gouvernance de nos nouveaux laboratoires, par exemple, la nouvelle gouvernance de nos laboratoires, et on n'aurait pas aujourd'hui des formations telles qu'elles ont lieu dans les universités pour former les chercheurs, les directeurs de laboratoires à la novlangue, hein, très clairement. Voilà, il y a de la formation professionnelle maintenant pour les universitaires pour les former à cette langue managériale, etc. Donc c'est pas parce qu'on a cette distance qu'on croit avoir que ça ne produit quand même pas un effet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut faire attention dans les discussions. On a tendance, les premiers travaux sur la nouvelle langue néolibérale se sont concentrés sur ce qu'il y avait de plus évident, c'est-à-dire sur le lexique. comme on l'a dit ici. Donc c'est effectivement ce qu'il y a de plus évident. Mais ça n'a rien de spécifique au néolibéralisme. Chaque discours politique se caractérise par un lexique propre. Voilà. Donc déjà, ce n'est pas spécifique. Et deuxièmement, c'est sans doute vraiment que la partie visible de l'iceberg. À force de travailler là-dessus, je me dis qu'il y a quelque chose qui, effectivement, commence à avoir sérieusement, depuis une trentaine d'années, un impact sur nos comportements, sur notre vision du monde, sur notre imaginaire politique et tout court, et qu'on entend, alors là, pour le coup, systématiquement repris autour de nous, c'est effectivement, Tina, there is no alternative, il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas faire autrement. Demandez-vous, enfin, moi, j'entends à chaque réunion, dès qu'on conteste quelque chose qui est fait pour privatiser, sans le dire, les services publics, à chaque fois, j'ai mes collègues qui me regardent et me disent, ouais, mais on n'y peut rien. On ne peut rien faire. Voilà. Donc ce côté inéluctable de ce qui nous arrive, et juste pour terminer là-dessus, une petite anecdote, comme je travaille là-dessus justement sur la façon dont ça se diffuse. Alors ça se diffuse comment? Par saturation, par surrépétition, par un côté tentaculaire, par récupération. C'est une langue qui est très très malléable et qui récupère énormément de concepts comme la révolution, etc. etc. Mais en tout état de cause... je me suis amusée à faire une petite... le lendemain des élections municipales, j'ai pris tous les éditoriaux de tous les quotidiens. Et tous, d'une manière ou d'une autre, alors là, pas visible, parce que c'est pas un mot technocratique, c'est pas un mot managérial, c'est des formules de tous les jours, parfois c'est un nom, parfois c'est une phrase, parfois c'est un bout de phrase, parfois c'est un adverbe. Tous expliquaient que, un, la politique économique néolibérale, il n'y avait pas le choix, et que deux, Hollande, n'avait pas le choix de nommer Valls. Voilà. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre possibilité, donc l'article n'envisage même pas d'autres configurations politiques. Tous les éditos, et les éditos sont quand même les endroits dans les journaux où s'exprime la position dominante, tous reprenaient là-dessus. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement puissant.
On peut peut-être prendre 5-10 minutes, et comme ça on fera la moyenne entre le retard et le respect du timing.
Elle est toujours en retard.
Je sais,
minutes,
mais là. Voilà, 5-10 minutes, s'il y a encore une ou deux questions. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, on peut faire la pause maintenant.
Si.
Oui.
Oui, une question un peu... Enfin, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que j'entends. Il y a des choses qui me surprennent, effectivement. Vous disiez tout à l'heure, assez justement, que les sociologues, y compris les sociologues, si j'ose dire, ne parlent plus ou plus guère de classe sociale. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi, effectivement, on en parlait de moins en moins, enfin, en tout cas, moins de façon critique, si j'ose dire, et en même temps, en interrogeant les formes de catégories qui sont quand même des catégories de pensée assez essentielles. Je suis Bourdieu chez d'autres, mais voilà, il y a quand même Bourdieu à, j'espère, quelques héritiers. Et puis, moi, il y a quelque chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est que la philosophie analytique, tout ça, j'entends parfaitement ce que vous dites, me semble-t-il, mais moi aussi, je suis très intrigué, comme la dame devant moi, sur comment est-ce que les choses s'immiscent en nous. C'est vrai qu'il y a cette histoire du climat, mais je connais, par exemple, certains registres d'information où le terme de gouvernance apparaît, par exemple, hein, où le rapport aussi au savoir disparaît pour se transmuer, enfin, je ne sais pas comment dire, en compétence, qui est quand même relativement difficile à traduire en termes de formation. Voilà. Je crois aussi qu'on y contribue un petit peu, enfin, je rejoins un petit peu ce point de vue, quoi, qu'on y contribue un petit peu, qu'on laisse un peu les choses s'immiscer. Et si je reprends l'exemple que je ne connais pas comme vous, mais l'universitaire, je rejoins aussi cette idée que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a des places à prendre, qu'il y a énormément de concurrence, et que même dans ce milieu-là, me semble-t-il, il y a aussi la novlangue qui arrive, mais aussi la notion de performance, quoi, comme elle arrive dans les écoles de travail social dont je fais partie, que je connais un petit peu. Ou même dans ces écoles-là, on voit aussi apparaître ces notions-là de démarche qualité, par exemple. Hein, voilà.
C'est vrai, oui.
Voilà. Donc peut-être qu'il n'y a pas de réponse, c'était un appendice à la conclusion.
Juste,
si,
voilà. C'est juste un mot sur la disparition, ou pas totalement, faut pas exagérer, mais enfin bon, le déclin très fort, par exemple, de l'usage d'une vision du monde divisée en classe sociale chez les sociologues. Je pense que c'est une belle question pour sociologues. Voilà, faire de l'histoire sociale des sciences sociales, ça serait de montrer comment. Je suis assez vieux pour l'avoir vécu. Moi, j'ai assisté à ça. Je ne sais pas, quand j'étais petit, j'ai débarqué là-dedans. J'étais, je ne sais pas, marxiste althusserien dans cette variante-là. Mais enfin, je n'étais pas tout seul à cette époque-là. C'était un mode de pensée généralisé dans le champ intellectuel, une espèce d'hégémonie, on pourrait dire, intellectuelle chez les sociologues. Ça allait de soi. Bon, alors, comment, au cours des années 70, en fait, hein, ça bascule et paf, jusqu'à quasiment disparaître, ça serait effectivement une démarche tout à fait intéressante, hein, de voir voilà, comment des mots sont disparus, y compris chez les sociologues, comment ils sont apparus, qu'est-ce qui les a remplacés, etc. Je pense que voilà, c'est un travail qui est à faire, à mon avis, qui ne manquerait pas d'intérêt, je pense, tout à fait. Quoi. Si on veut comprendre ce qui nous est arrivé, ben voilà, ce n'est pas advenu par la vertu du Saint-Esprit, hein, ça n'a rien de magique, ça s'explique sociologiquement, mais c'est un travail à faire.
Juste une minute, enfin, ce qui serait intéressant, c'est de regarder comment on en vient à devenir sociologue ou bon, comment on en vient à devenir journaliste ou faire de la politique. Enfin, si on prend par exemple la trajectoire de Gérard Mauger, comment il en est venu faire de la sociologie, bon, je ne me trompe pas si il me dit qu'il y a une expérience militante, il y a un engagement. Bon, aujourd'hui, pas sûr. Enfin, y a une telle sorte de professionnalisation, de spécialisation de la discipline qui fait qu'on intériorise des normes qui sont très compliquées et qui font que on pourrait dire, c'est un terme à prendre avec des pincettes, mais il y a une sorte de dépolitisation, en tout cas, de la sociologie, quoi. Une neutralisation. Donc de la même manière, le journaliste qui, dans les années 70, voulait faire journaliste pour faire grand reporter ou parce qu'il était passionné de rock et puis parce que c'était un gauchiste en fait qui voulait être à Libération. Bon, bah, maintenant, dans mes entretiens avec les journalistes, c'est quelque chose que je ne vois plus quasiment, quoi. C'est-à-dire, c'est assez proche de la vocation des étudiants de Sciences Po qui sont pris dans le jeu politique, qui sont dans un environnement culturel qui est là aussi très neutralisé, quoi.
Bien. Donc, ben, on va faire une pause avant la prochaine table ronde. Merci beaucoup à tous. Et je rappelle, j'indique à ceux qui n'étaient pas là hier qu'il y a une boîte à la sortie de la table pour nous permettre de récupérer éventuellement votre contribution pour nous aider à financer ce festival. À tout à l'heure, 15h30 pour la deuxième table ronde. Merci beaucoup.